Bonjour à tous. Nous sommes, mon épouse et moi, nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver parmi vous aujourd'hui pour ce culte, ce moment de culte. Je vais vous présenter en 30 secondes mon épouse. Elle vient du Cambodge. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ en 2017. En 2017. Et on s'est marié en 2019. Elle vit dans une famille complètement bouddhiste et pour elle, c'est vraiment un combat de témoigner. Et au début, ça a été quelque chose qu'ils ont accepté et maintenant, elle a vraiment du conflit dans sa famille et parmi ses amis parce qu'elle elle vraiment, son don, c'est le témoignage.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Je parle un petit peu.
Prions. Seigneur, nous sommes vraiment heureux ce matin de ta présence au milieu de nous. Nous te demandons, Seigneur, de préparer nos cœurs, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur. Tu vois toutes ces pensées qui peuvent venir avec nous ce matin. Nous les chassons et nous rendons toutes pensées captives en Jésus-Christ pour vraiment être attentifs à ce que tu nous dis, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais parler, je voudrais qu'on lise dans Philippe chapitre 4, Philippe chapitre 4, du verset 2 au verset 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une voix qui porte, qui peut lire ce passage? Oui, quelqu'un qui peut venir au micro pour lire ce passage. Philippe, chapitre 4, du verset 2 au verset 9.
J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous.
Alors aujourd'hui, vous avez compris, je vais essayer de vous parler de la joie parce que dans cette période très, très difficile, comment on peut garder la joie? Moi, je suis confronté aussi à ce problème. Comment garder la joie? J'ai discuté avec quelques frères et sœurs et vraiment certains sont stressés à cause de cette situation. Mais on peut se rassurer que dans la parole, Dieu on peut retrouver cette joie que Satan nous vole chaque jour, mais on peut la retrouver dans la parole. Et Dieu nous invite. Qu'est-ce que ça signifie se réjouir dans le Seigneur? C'est une bonne question et je peux vous poser cette question. Est-ce que vous êtes dans la joie, frères et sœurs, ce matin, ou est-ce que vous êtes dans la tristesse? J'ai trouvé une petite aide sur Internet, comment cultiver cette joie. Il y a sept conseils, sept clés qui peuvent nous aider à garder cette joie tous les jours de notre vie, malgré les difficultés. Dans Romains, au chapitre 15, au verset 13, Paul prie pour nous. Il prie pour les Romains, mais c'est une prière qui nous est adressée. Je vous lis ce que dit Paul. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Donc Paul est déjà conscient que la paix, la joie, et c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Sans ça, notre vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que la paix ? Et dans Galates 5, 22, on voit que la joie est un fruit de l'esprit. Je vous lis Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Et Paul nous donne un commandement. Il ne nous dit pas « Essayez d'être dans la joie ». Il dit « Réjouissez-vous ». C'est un commandement. Alors ça, c'est quelque chose de difficile à faire, surtout dans cette situation. Comme d'aimer son prochain, c'est un commandement. Aimez votre prochain. Il ne dit pas « Essayez d'être dans l'amour ». Non, aimez, réjouissez-vous. C'est quelque chose que Dieu nous donne. La première clé, est-ce que les événements extérieurs, les circonstances, affectent ma joie ? Ça, on peut dire que oui, hein. On doit se tenir informé, mais pas se tenir isolé. Notre vie n'aurait pas de sens si on vivait comme Robinson Crusoe. On est dans le monde. Dieu nous envoie dans le monde. On a de l'information qui arrive chaque jour. Par contre, il faut faire attention à l'information qu'on prend. Si on va sur Internet, on peut trouver n'importe quoi. Alors là, notre joie, elle en prend un coup. C'est normal que nous soyons attristés. Moi, je connais personne qui me dit « je me réjouis du Covid, je me réjouis de ce que... » Non, soyez attristés pour un moment, d'accord, mais pas attristés pour toute la vie. Les difficultés, les problèmes, les circonstances ne sont pas ultimes. Dieu nous l'a dit, Dieu ne nous le cache pas dans sa parole. Il y aura des difficultés, il y aura sûrement avant la fin, avant le retour de Jésus-Christ, il y aura des famines, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Je ne sais pas si quand Jésus reviendra, mais ces temps-ci ne sont pas des temps, ces circonstances ne doivent pas nous voler notre joie. Et la Bible est pleine d'exemples qui nous parlent de difficultés. Abraham, Moïse, Job, Paul, et le meilleur exemple, c'est Jésus. Jésus a été vraiment dans les difficultés, dans les problèmes, dans le combat contre tous ses ennemis. Pourtant, ils avaient tous la joie. Et Job aussi, c'est vraiment quelque chose où on peut, dans ces moments difficiles, on peut essayer de relire le livre de Job, où tout ce qu'il a vécu, il y a beaucoup d'entre nous qui auraient peut-être laissé tomber, qui auraient peut-être baissé les bras. Mais non, Job, il a continué jusqu'à la fin, quoi. Ne jamais abandonner. Ce qu'il faut, c'est surtout accepter la parole de Dieu, l'obéissance à sa parole, qui nous dit « réjouissez-vous ». C'est difficile de se réjouir dans le malheur, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais c'est possible. Si Dieu nous demande de le faire, c'est que c'est possible. On ne peut pas dire que c'est impossible. Ça prend du temps. Moi, je dois vous avouer que nous aussi, on a rencontré des problèmes pour venir, avion annulé, pour rentrer. Il y a des gros problèmes pour rentrer, du confinement, de l'argent à donner, à payer, là-bas, le confinement. Mais on ne peut pas se laisser dominer par les circonstances. Un mensonge de Satan qui dit « Je ne peux pas être heureux tant que je n'ai pas ce que je veux. » Ça, c'est complètement faux, quoi. On a bien des exemples dans des familles où on voit les enfants qui ont été pourris gâtés. L'enfant n'est jamais satisfait. Il est toujours coléreux, il est toujours en demande. Il n'a jamais, jamais assez, quoi. La joie ne vient pas de l'extérieur. Vous pouvez pourrir un enfant jusque sans limite, il ne sera jamais heureux. On a un bon exemple ici. Je ne sais pas si vous avez, je pense que vous l'avez vu, cet Australien-Américain qui s'appelle Nick Vujicic, qui n'a pas de bras et pas de jambes. À 12 ans, il voulait se suicider. Il n'avait pas la joie. Et maintenant, c'est un témoignage de joie. Combien de gens viennent à Christ à travers son témoignage. Donc, moi, quand je regarde cette petite vidéo, je retrouve la joie et j'arrête de me plaindre, quoi. Et Paul le décrit bien dans Philippiens 1. Paul est dans la souffrance, il est en prison, mais il est dans la joie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable, être en prison et être dans la joie. Il y a aussi des témoignages de gens persécutés, particulièrement en Chine, qui sont en prison, mais ils sont dans la joie. Ils écrivent des livres de témoignages. Et moi, j'ai un souvenir personnel. Quand j'étais une fois au Cambodge, j'avais pas mal de problèmes et j'appelle un ami en Suisse, Joël David, et je lui dis « Oh, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Oh, ça veut dire que tu es à la bonne place, ne t'inquiète pas. » Donc je me suis tu et j'ai retrouvé la joie, la paix. Et des fois, Dieu utilise les amis pour vous remettre sur le chemin de la joie. Ça, c'est comment être tout le temps, comment pratiquer ce commandement. C'est quelque chose. Moi, le matin, si vous vous levez et vous commencez à regarder par la fenêtre, si vous voyez la pluie, vous commencez à être triste. Ça va, votre journée elle est foutue. Hein. Mais si vous vous levez et vous proclamez « Seigneur, donne-moi la joie aujourd'hui, c'est une bénédiction de Dieu, j'ai la joie de Dieu, même s'il pleut, même si je ne fais pas tout ce que je veux aujourd'hui, Seigneur, donne-moi cette joie, je veux rentrer dans la joie. » Il faut le proclamer dès le matin, et prier dès le matin, ne pas vaquer à nos occupations. Ça, c'est quelque chose d'impératif. Et la parole a une force. Je proclame la joie dans mon cœur ce matin. Même si j'ai des difficultés, même si je n'ai pas tout ce que je veux aujourd'hui. On a la force de gagner sur les circonstances. Et la deuxième clé, c'est ne pas se laisser affecter par les autres. Alors, vous avez beaucoup de personnes qui peuvent aussi peut-être entendre, ils disent du mal de vous, mais je veux surtout par là dire que je ne sois pas jaloux ou envieux de mon voisin ou de quelqu'un qui a quelque chose de plus que moi. Dans le champ missionnaire, on pourrait être tenté par ça et dire, oh ben, tiens, un tel, il a plus de dons que moi. Et ça, c'est vraiment un piège que Satan nous tend. Il faut vraiment prier pour ceux qui ont plus de dons que vous. Et, là-bas, sur le champ missionnaire au Cambodge, on a beaucoup de missionnaires qui ont un don de prophétie, un don d'évangélisation. Et ces gens-là, il ne faut pas être jaloux, il faut vraiment être reconnaissant, quoi. Moi, je suis aussi affecté par le comportement de ma famille qui, malgré la situation difficile, ils ont toujours fermé la porte au spirituel. Ça aussi, ça m'affecte beaucoup. Et des fois, quand je sors d'une réunion de famille, je ne suis pas dans la joie parce que j'aurais voulu partager l'amour de Jésus-Christ avec eux. Mais c'est fermé, quoi. Et pourtant, on prie avec mon épouse, on prie quand on va dans un endroit où il n'y a pas de chrétiens, on prie. Mais ça, c'est pareil, ça ne doit pas nous voler notre joie. Même si ils sont toujours fermés à l'évangile, Dieu travaille. Et comment je peux gagner sur l'autre? Eh bien, la parole est vraiment claire. Dans Philippiens, au chapitre 2, du verset 3 au verset 4, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Ce n'est pas facile à faire non plus, mais c'est un commandement de Dieu. Et quand on montre de l'amour à quelqu'un, on ouvre une brèche dans son cœur. Et c'est le seul moyen de se braquer parce qu'ils ne sont pas ouverts à l'évangile, c'est de les aimer en premier. C'est à nous, nous avons la clé. La troisième clé, que nous avons, c'est nous, on en a parlé, Emmanuel, on a prié ce matin, on a le salut. On a l'assurance du salut. J'espère que vous êtes comme moi convaincu que votre nom est inscrit dans le livre de vie, là-haut. Ça, il faut y croire. Et c'est vraiment la chose la plus importante, parce que cette vie sur Terre n'a pas... C'est une vie vraiment très courte. On a tous l'espoir de la vie éternelle avec Jésus-Christ. J'aime ce chapitre de Luc, le chapitre 10. Jésus, il envoie 70 disciples, donc ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Il les envoie partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, ils sont vraiment très efficaces. Et quand ils reviennent, j'aurais voulu qu'on fasse un film là-dessus, mais ils sont remplis de joie. Ils doivent être heureux. On a annoncé ta parole, on a guéri des malades, on a vaincu des démons, on a fait des convertis. Et ils sont là, complètement euphoriques, quoi. Et on peut l'imaginer. Et Jésus leur dit, réjouissez-vous seulement que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais moi, j'aime ce passage, comme ces 70 disciples qui reviennent, envoyés par Jésus, et qui font un compte-rendu, quoi, et qui sont vraiment enthousiastes. Qu'est-ce qui nous fait tressaillir de joie, nous, à l'heure actuelle ? Moi, je pense que Paul a dit un jour, je suis un peu en overdose de problèmes. Il a dit, heureusement, il y a un de ses apôtres, qui était à deux doigts de mourir. Et Dieu n'a pas permis qu'il meure. Et Paul dit, ah, heureusement, ça aurait été quelque chose qui nous aurait vraiment affecté, quoi. Donc, on a besoin de bonnes nouvelles. On a besoin de contact, on a besoin de choses positives dans notre vie. Il ne faut pas non plus être maso, quoi. Et dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 6, il faut garder les yeux sur Jésus et dire « Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus ». Ça aussi, c'est une arme qu'on peut avoir tous les jours et proclamer ça le matin ou n'importe quand vous avez un moment de doute, un moment de tristesse. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Alors, on peut se poser la question, sommes-nous des chrétiens frustrés de la vie ou des chrétiens réjouis de notre salut ? Parfois, on peut tomber, hein, c'est normal. Hein, on n'est pas. La quatrième clé, c'est on l'a chanté ce matin et dans les prières, merci. Ce matin, j'ai entendu, je ne sais plus combien de merci. Et ça, il faut entretenir la gratitude. La reconnaissance est une attitude qui nous rend heureux. Maintenant, on ne sait plus dire merci. Hein. Quand on reçoit des bénédictions, on est heureux, mais quand on sait remercier, on est encore plus heureux. Et Jésus a guéri 10 lépreux, et il n'y en a qu'un qui est retourné dire merci. L'ingratitude peut être aussi le reflet de notre cœur. Si je suis aigri, j'ai tendance à être ingrat, à oublier de dire merci. On vit aussi dans un monde où on pense que tout nous est dû et on est doué pour se plaindre. Je vous montrerai tout à l'heure un dessin d'Oderset. C'est un gars qui écoute la météo, il fait beau. Et à la météo, ils disent « Oh, demain, il va pleuvoir ». Alors il est là, il fait la tête, il ronchonne. Mais le jour où il ronchonne, il fait beau. Quand il pleut, il dit rien, mais il ronchonne quand il est là. Et le lendemain, il fait beau, il dit « T'as vu le temps qu'on a eu hier ?» Et il ronchonne. Quoi. Et c'est nous, hein, ce Oderset, il parle de nous, hein, il ne parle pas des autres. Et on peut voir dans la Bible que tout au long de cette relation avec Dieu, dans la traversée du désert, ils étaient doués pour se plaindre, hein, ronchonner, tout le temps ronchonner, tous les jours. Mais des fois, on est aussi comme eux. Alors, on doit combattre cette ingratitude en arrêtant de nous plaindre et louer le Seigneur. Emmanuel a dit merci pour la pluie ce matin, et ça c'est bien. Quoi. Si je dis, ouais, j'ai un barbecue aujourd'hui, il pleut, je peux pas. Non, ça marche pas comme ça. Et aussi, dans notre. Il faut mieux valoriser dans le futur que dévaloriser dans le présent. Si on a un problème dans un couple, par exemple, la femme se plaint du mari ou le mari à propos de quelque chose qui, si on commence à rentrer dans le plan de Satan, cette petite chose peut devenir quelque chose de dramatique. Alors que si on prie et dans le but de bénir notre épouse ou notre mari, cette chose qui nous pollue la vie peut disparaître en rien de temps. Il y a une histoire vraie, c'est une femme qui était, c'est dans un couple, et c'est la femme, elle est maniaque du ménage. Elle passe l'aspirateur 6 fois dans le salon, 6 fois par jour. Le mari, il en a ras-le-bol, quoi. Et au lieu de se chipoter avec sa femme, il dit, il prie, et il se met à passer l'aspirateur aussi. Donc ça, c'est vrai. Sa femme, elle le voit passer l'aspirateur, donc au lieu de 6 fois, elle passe 4 fois. Lui, il rajoute une fois, et maintenant, il passe l'aspirateur 1 fois par jour. Donc, s'il avait suivi le Satan, il serait rentré dans le conflit. Mais il a prié, et Dieu lui a donné une idée géniale, et un petit truc, d'un petit rien qui aurait pu faire quelque chose de très négatif dans la famille, qui apportait du stress, volé la joie, et ben ils sont arrivés à un consensus formidable. Alors, j'aime bien aussi cette phrase, il dit « Mon épreuve, je peux l'utiliser comme un mur, ou comme un fardeau, ou je peux l'utiliser comme un tremplin pour aller plus haut. » C'est pas facile, mais c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, quoi. La cinquième clé, c'est la générosité. Dans Actes 20, verset 35, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ça, c'est vraiment quelque chose... La Bible est une merveille quand on... C'est chaque fois, chaque phrase est quasiment une perle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors que nous, on pense le contraire, quoi. On est ouvert au cadeau plus qu'à donner, quoi. Et Jésus, le premier, il est venu pour donner, il n'est pas venu pour recevoir, quoi. Et nous avons tendance à penser que si on donne, on va s'appauvrir, alors que Jésus nous dit le contraire. Et si nous ne faisons que d'attendre de recevoir des cadeaux, on est malheureux puisqu'on est, on est à la merci des autres. Je suis toujours dans l'attente d'un cadeau et que ce cadeau ne vient pas, je tombe dans la tristesse. Et ce qui est important, c'est de savoir comment donner. Et Dieu dit... Il faut donner avec un cœur sincère, avec générosité. Il faut donner comme cette veuve qui a donné elle a pris sur son besoin vital. Elle n'a pas donné elle a pas pris sur ses excès, sur ses bénéfices. Elle a pris de ce qui lui manquait. Et ça, c'est vraiment un beau témoignage. Et je pense que quand Jésus était dans la joie de voir cette femme, et cette femme aussi de donner de son besoin quotidien, quoi. Elle a pris dans son besoin quotidien, quoi. Et Dieu nous met un challenge. Je ne sais plus dans quel. Il dit, donne, et tu verras bien. Tu verras bien ce que je vais te donner en retour. Donne, fais l'expérience, ça ne te coûte rien. Et moi, je te multiplierai, donc, tout ce que tu donnes, je te multiplierai par 2, par 5, par 10. Dans mon ONG, le directeur, il avait une période difficile et il n'arrivait pas à donner la dîme, les 10%. Donc ils attendaient la fin du mois et comme il avait des problèmes, il n'arrivait jamais à donner les 10%. Donc ils ont prié et avec le pasteur et le pasteur a dit « Tu donnes les 10% au début du mois ». Depuis qu'ils ont fait ça, ils n'ont jamais manqué d'argent. Donc la parole est vraie quand même. La sixième clé, c'est garder des bons contacts avec la famille. Ça, c'est important, même s'ils ne sont pas chrétiens. Parce que le mariage, la famille, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Un jour, je discutais au Cambodge avec un Suisse, et je lui dis, il rentre en vacances, il rentre pour un mois. Mais je lui dis, mais pourquoi tu rentres pour un mois? C'est trop court, tu n'as pas le temps de visiter tes amis, ta famille. Il m'a dit, j'ai plus de famille. J'ai qu'un vieil oncle qui habite dans le nord de la Suisse. Donc, alors ça m'a fait un choc. Donc quand on a une famille, c'est aussi un cadeau de Dieu. Il faut vraiment apprécier ce cadeau. Et dans Deutéronome, au chapitre 5, le verset 16, Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Il y a vraiment un lien entre la famille et le bonheur. Quand j'étais à l'école biblique à Emmaüs, on avait un conseiller ou un psychologue qui venait le soir pour voir si on n'avait pas de problème. Et il était très malin, il savait comment rentrer dans le cœur de quelqu'un. Il savait, malgré qu'on était une dizaine, il nous posait les bonnes questions pour rentrer dans le cœur des gens. Et un jour, il pose la question, qu'est-ce qui va bien dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas bien dans ta vie ? Et il y a un Suisse qui lui dit, « Oh, moi j'ai des problèmes avec mon père. » Ses parents étaient divorcés. « J'ai coupé les relations avec mon père, mais j'en vis bien. J'ai coupé les relations avec mon père, mais ça ne me dérange pas. Plus je suis loin de lui, mieux ça va. » Donc le conseiller fait le tour de table et après il revient sur le Suisse et il lui pose la question, « T'es sûr que tout va bien ? Et si je t'aide à rétablir la connexion avec ton papa, est-ce que tu serais d'accord ?» Et il s'est mis à pleurer, il a dit oui. Donc ils ont fait ça en privé. Mais vous voyez, malgré ce qu'il disait, la joie n'était pas dans le cœur. Il voulait renouer le contact avec son papa. Et ce conseiller l'a aidé à le faire, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit bien travailler. Est-ce que je passe du temps avec ma famille, du temps, est-ce que je leur accorde de l'attention, de l'amour? Ça, même s'ils ne sont pas chrétiens, ça c'est très important. Avec mon épouse, c'est difficile parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Et mon épouse passe du temps au téléphone avec eux pour essayer de les aider dans leurs problèmes. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne de faire. Le dernier moyen, c'est la grâce. On l'a chanté ce matin. Utiliser les moyens de la grâce, c'est-à-dire la relation avec le Père. Et c'est quelque chose que notre papa, il adore. Quand on communique avec lui, quand on a une relation profonde avec lui, c'est quelque chose qu'il faut que Satan nous vole ce temps. Les préoccupations, « Oh, ce matin, j'ai ça à faire, aujourd'hui, j'ai ça à faire, je dois aller chez le dentiste, je dois aller faire des courses. » Ça, c'est Satan qui nous vole ce temps avec notre papa. Mais on doit se réjouir de la dépendance dans cette relation avec le Créateur du monde, avec notre Créateur. Et comment être en communion avec lui? Comment approfondir les relations avec Dieu? Bon, il y a trois outils principaux. Le premier, c'est la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole chaque jour. Et apprendre chaque jour à connaître Dieu davantage. Nous devons être affamés de la parole, affamés. Si un jour, je n'ai pas le temps de lire la parole, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne doit pas être une corvée, ça doit être un plaisir, ça doit être un besoin vital, comme de respirer. Et Jésus, dans Matthieu 4, au verset 4, dit « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est tellement important de chaque jour de lire la parole, chaque jour de par l'esprit, hein, se mettre dans un endroit calme et prendre du temps pour Dieu. Éteindre le téléphone, éteindre la radio, tout ça c'est important, quoi. Moi je vois des pasteurs qui sont au Cambodge, qui prêchent, ils ont le téléphone à portée de main. Donc quand le téléphone sonne, ils arrêtent de prêcher et répondent au téléphone. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. Et dans Jacques 1, le verset 25, Jésus nous dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Le deuxième point, il faut développer une vie de prière. S'approcher de Dieu nous rend heureux. On ne peut pas commencer un culte sans prier. Et aussi, j'ai quelque chose que je voudrais partager. Un jour, dans une ville du nord du Cambodge, il y avait une soirée louange. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. C'est-à-dire que les gens ne parlaient pas. On lisait un verset. Il y avait un tout petit commentaire et il y avait de la louange. Pendant une demi-heure, on a loué le Seigneur sans que personne n'interfère. Un verset, un chant. Et le Saint-Esprit était au milieu de nous. Et ça, c'est quelque chose qui vous transporte de joie. Il y a beau avoir le Covid à l'extérieur, quand vous êtes dans une assemblée avec des frères à louer le Seigneur par l'Esprit, c'est quelque chose de magnifique. Ça, vous avez les poils qui se dressent sur les bras. Hein. C'est trop beau, quoi. Il faut aussi, le troisième point, utiliser les sacrements pour être dans la joie, le baptême, la Sainte Cène, car par ces moyens-là, on développe une relation avec Dieu. Alors pour finir, je vais juste faire une petite... Il y a des choses qui me... Dieu nous donne des images qu'on ne peut pas oublier dans notre vie. Et un jour, j'ai écouté une histoire d'un papa qui avait une petite fille de 4 ans. Et la petite fille avait une relation avec son père, une relation vraiment de joie, d'amour, très, très intime. La gamine adorait son papa. Papa, c'était son Dieu. Et son papa, c'était un maquignon. Donc il dit à sa fille, aujourd'hui je ne peux pas t'emmener, je vais à Vaufray acheter une genisse. Et la gamine, elle pleure, mais elle était très intelligente, elle attend que son papa ait le dos tourné, elle se cache dans la voiture. Et son papa y part, et quand elle arrive à Saint-Hippolyte, la gamine se lève derrière le siège. Quoi. Donc ça c'est une attitude d'amour pour le père, et je voudrais nous encourager à avoir cette attitude. Nous cacher pour être, tout faire pour être en relation avec le papa. Et ma dernière petite histoire pour finir, il y a 3 semaines, on a été invité au restaurant à Ornans. On était en terrasse, il y avait à peu près une trentaine de personnes, il y avait 5-6 tables. Et à une table, il y avait un petit gamin de 4 ans. Le gamin, il s'est mis à chanter. Incroyable, ça. Et je me suis dit, mais si tous les adultes se mettaient à chanter comme ce gamin, qu'est-ce que ça donnerait, hein? Le gamin était dans la joie. Et sa maman essayait de le faire taire, mais je lui ai dit, non, c'est trop beau, laissez-le chanter, quoi. Et je vous encourage à chanter, être comme ce gamin, plein de joie, chaque jour. Voilà, j'ai terminé. Je vais redire cette prière de Paul. Alors cette prière, c'est pour chacun d'entre nous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.